Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'hommage aux victimes des attentats de janvier 2015, la tuerie à Charlie Hebdo, l'attaque de l'hypercacher et la mort de deux policiers. Ne jamais oublier la barbarie, c'est la France dans toutes ses composantes qui a été frappée, nous dira le député écologiste coprésident du parti Liberté, Écologie, Fraternité, François-Michel Lambert. Emmanuel Macron confirme sa volonté de voir émerger une nouvelle organisation de l'islam de France. L'État mise sur le forum de l'islam de France. Nous y reviendrons avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. La répression des manifestations se poursuit au Soudan. Deux manifestants ont été tués lors de nouveaux rassemblements contre le pouvoir militaire. L'inquiétude des professionnels du tourisme au Maroc face à la fermeture des frontières. Environ 200 d'entre eux ont manifesté cette semaine devant le siège du ministère du Tourisme. Le ministre français des Affaires étrangères estime que les négociations sur le nucléaire iranien avancent sur un chemin plutôt positif. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient, ce samedi à 11h et 23h, est Walid Ajar Rachedi. Il publie « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?», roman qui évoque notamment l'Afghanistan et le terrorisme, extrait dans votre journal. Le cas Zemmour, comment en est-on arrivé là? Il s'est co-signé Noël Mamère aux éditions Les Petits Matins. L'ancien candidat à la présidentielle, ex-maire de Bègle, sera l'invité de Pluriel à 19h et 23h. Vous l'entendrez dans votre édition. Cela fait 7 ans, le début des attentats de janvier 2015, des attaques survenues entre le 7 et le 9 janvier à Paris. Elles ont visé la rédaction du journal Charlie Hebdo, des policiers, Ahmed Merabet et Clarissa Jean-Philippe, et des clients de l'hypercacher à Paris, des attaques au cours desquelles 17 personnes ont été tuées. 7 ans après ces attentats, il ne faut jamais oublier, nous dit le député écologiste coprésident du parti Liberté, Écologie, Fraternité, François-Michel Lambert.
Ne jamais oublier. La barbarie qui nous a enlevé des hommes, des femmes, parce que pour certains, il était insupportable qu'il une certaine idée de vivre ensemble, dans nos différences, dans nos cultures, dans notre impertinence, n'était pas acceptable au point qu'ils leur ont retiré la vie. Au moment où des tensions se font dans le monde entier, où chacun se replie, moi, je rappelle que la plus belle force de l'humanité, c'est quand elle se regarde dans ses différences et dans sa fraternité.
C'est la France qui a été touchée en plein cœur. La France et l'ensemble des composantes de sa population.
Tout à fait, c'est la France dans toutes ses composantes. Il n'y a pas une partie particulière de la France qui ne doit pas se sentir concernée par ces attaques de personnes qui ont une toute autre idée du vivre ensemble, c'est-à-dire l'idée que on doit se renfermer, se refermer, c'est être étriqué, que l'on ne peut pas être créatif, impertinent, je l'ai dit, cette impertinence, elle peut nous faire mal, mais aussi elle fait depuis toujours partie de l'histoire de l'humanité, quelle que soit sa confession ou pas sa confession, quelles que soient ses origines, l'impertinence, celle qui est dans une forme de bienveillance et dans une idée de fraternité. Je te montre que j'ose des choses, mais ce n'est pas contre toi, c'est juste pour te dire, regarde-moi, pas parce que je suis ton miroir ou ton clone, mais parce que je suis moi, et moi je te regarde parce que tu es toi. Et c'est ça qu'il faut qu'on nous retrouvions, de regarder l'autre parce qu'il est et non pas parce que nous voudrions qu'il soit, et que l'autre nous regarde parce que nous, ce que nous sommes et non pas parce que il voudrait ce que nous soyons.
Vous vous souvenez bien entendu de cette grande marche du 11 janvier 2015. Ce moment, il faut aussi s'en souvenir, c'était aussi un beau moment en France.
C'est un moment bien au-delà de la France, une représentation planétaire de tout ce qui compose l'espèce humaine, de tout ce qui compose les nations, qui étaient présents, représentés, affirmés, en force, en puissance. Aujourd'hui, face à cette pandémie, j'aimerais tant retrouver, peut-être à la sortie, une sorte de liesse populaire, où c'est ensemble que nous avons vaincu la pandémie. nous savons pertinemment que nous pourrions, nous, occidentaux, notamment français, avoir 3, 4, 5 ou 10 injections de doses si une partie notable de nos frères humains ne sont pas protégés. Le vaccin continuera à circuler, à muter et à nous revenir en bon rang. Donc nous savons très bien que c'est par la main tendue, par la solidarité, la fraternité que nous vaincrons cette pandémie, c'est-à-dire l'antithèse de ce que nous avons subi il y a 7 ans, l'antithèse de ceux qui ont voulu la mort, de ceux qui étaient différents d'eux, l'antithèse de ceux qui croient en l'homme et la pensée unique. Aujourd'hui, c'est au contraire cette diversité qui nous renforcera.
Et cette fraternité qui s'est donc exprimé lors de cette manifestation qui a réuni l'ensemble ou la quasi-totalité des chefs d'État.
Des chefs d'État, des chefs spirituels, des chefs de pensée œcuméniques, philosophiques, des chefs FFES, femmes, présentes sans savoir ce qu'il en est d'où ils viennent, mais plutôt là où ils sont avec nous. C'est ça qui est extraordinaire.
Le député écologiste coprésident du parti Liberté, Écologie, Fraternité, François-Michel Lambert. La création d'un forum de l'islam de France, elle a été confirmée par le président français, c'était mercredi dernier, lors d'une rencontre avec les représentants des différents cultes. Nous y revenons avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou.
Dans ce genre d'initiative, même si l'intention est louable et pragmatique, cette initiative manque d'une réflexion préalable, une réflexion théorique sur ce qu'on pourrait représenter comme une institution religieuse représentative de l'islam dans un contexte laïque. Il faudrait se pencher sur une réflexion profonde par des gens qui travaillent, qui ont produit sur cette question-là pour pouvoir délimiter les contours de ce qu'on appelle le culte musulman. Est-ce qu'il s'agit de représenter les musulmans ou bien le culte ou la pratique du culte musulman? Et qu'est-ce que c'est que le culte musulman? Je pense que ce sont des préalables importants. La question des fonctions religieuses, l'imam, le prédicateur, l'aumônier militaire, etc., etc., et sur quelle base on va désigner, on va nommer ces fonctions religieuses. Je pense que on est plus dans la technique, dans la gestion administrative et technique, ce qu'on pourrait bien sûr admettre. L'État a besoin d'un interlocuteur, même si c'est pas la religion en tant que telle qui cherche une représentativité quelconque. L'islam n'a pas besoin d'une institution religieuse représentative, mais c'est une demande de l'État. Et donc l'État, elle a besoin politiquement, administrativement, pour gérer le culte musulman, d'avoir des interlocuteurs. Sauf que malheureusement, face à l'État, il n'y a pas une maturité intellectuelle théologique des interlocuteurs. C'est pourquoi on consulte souvent des gens qui n'ont pas de rapport ni avec la théologie, ni le droit canonique, ni même la pratique des fonctions religieuses. Donc on est dans le tâtonnement, encore une fois, c'est bien, il faut toujours essayer. C'est déjà pas mal de reconnaître que le CFCM tel qu'il est aujourd'hui est une institution qui n'est pas adaptée de par sa constitution, et de penser d'autres modèles de représentativité. Donc la démarche au niveau de son intention est tout à fait légitime. Cependant, pour moi, j'insiste sur le côté fondamental théorique, qu'est-ce qu'on entend par le culte. L'islam n'est pas qu'un culte. Ce qui pose problème aujourd'hui au niveau des pratiques de l'islam, c'est pas dans les mosquées, c'est plutôt dans l'éthique individuelle, dans l'entreprise, dans la société, dans l'administration, etc. C'est au niveau de l'éthique personnelle des musulmans où se situe le problème. Et ce côté-là ne relève pas du culte musulman. C'est de l'éthique musulmane, individuelle et collective.
Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, invité de rencontre ce vendredi soir à 20h30. La répression des manifestations s'est poursuivie cette semaine au Soudan. Deux manifestants ont été tués ce jeudi lors de nouveaux rassemblements contre le pouvoir militaire. Une annonce du comité central des médecins. Une soixantaine de personnes sont mortes dans la répression des rassemblements depuis le coup d'état du général Abdel Fattah Burhan le 25 octobre dernier. L'inquiétude des professionnels du tourisme au Maroc face à la fermeture des frontières. Environ 200 d'entre eux ont manifesté cette semaine devant le siège du ministère du Tourisme. Ils demandent des mesures de soutien à leurs activités et une réouverture des frontières. Tous les vols de passagers de et vers le Maroc sont suspendus depuis le 29 novembre et au moins jusqu'au 31 janvier prochain. En cause, la flambée du variant Omicron dans le monde. 8 Palestiniens ont été tués dans une collision entre un camion et un minibus. C'est arrivé en Cisjordanie occupée. Mahmoud Abbas a décrété une journée de deuil ce vendredi à travers la Palestine en hommage aux victimes. Le ministre français des Affaires étrangères estime que les négociations sur le nucléaire iranien avancent sur un chemin plutôt positif. Jean-Yves Le Drian rappelle l'urgence à les conclure rapidement. Il y a quelques progrès qui ont été faits les jours derniers. On est parti sur un chemin plutôt positif, mais le temps presse, ajoute le chef de la diplomatie française. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient, ce samedi à 11h et 23h, est Walid Ajar Rachedi. Il publie « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?», un premier roman publié aux éditions Emmanuel Colas, rediffusion dimanche à 19h, un roman qui évoque notamment l'Afghanistan et le terrorisme. Walid Ajar.
Je pense qu'on a tous été très, très marqués en 2015 par les attentats qui ont eu lieu à Charlie Hebdo, à l'Hypercacher, puis au Bataclan. Moi, dans mon cas, ce sont des quartiers que je connais très bien parce que je travaillais à l'époque dans le 11e et jusqu'à pas très longtemps j'habitais dans le quartier. Et c'est vrai que voilà, en étant qui je suis, j'avais à la fois des gens que je connaissais parmi des victimes, en tout cas parmi des amis des victimes, en tout cas c'est des lieux de vie dans lesquels on était touchés de plein fouet. Et puis voilà, parmi les auteurs des attentats, notamment un jeune homme qui était de Bévry-Vaucouronne où j'ai grandi. Et voilà, sans forcément avoir envie directement de parler de ça, en tout cas, ce que je voyais bien, c'est qu'on était dans une histoire qui était très locale et qui en même temps dépendait d'enjeux géopolitiques beaucoup plus grands. Parce qu'en vrai, voilà, ces actes-là ont lieu en France, mais en vérité sont le fruit de événements géopolitiques majeurs beaucoup plus grands qui nous dépassent. Et en fait, ce qui m'intéressait de raconter à travers l'histoire de ces personnages qui se passent dans les années 2000, c'était de raconter ça à travers effectivement l'histoire de l'Afghanistan. Alors pourquoi je parle de l'Afghanistan? Parce que voilà, c'est un pays qui a une culture qui est magnifique, c'est le pays de Rumi, c'est le pays de grands poètes, et c'est vrai que c'est un pays qui, successivement, à travers la conquête britannique, puis l'invasion russe, puis les Américains, a été constamment volé de son destin. Et en fait, voilà, c'est une matière romanesque qui est très riche, et je pense que c'est le symbole de beaucoup de choses et de beaucoup d'affrontements entre guillemets l'Orient et l'Occident. Et puis voilà, c'était aussi à travers ces personnages de jumeaux, cette idée voilà de personnes voilà qui sont de jeunes gens qui rêvent comme tout autre, l'un rêve d'être footballeur, l'autre rêve de travailler dans les médias, et qui sont volés de leur destin par des événements qui les dépassent.
Walid Ajar Rachedi, invité de la bibliothèque de Radio Orient, samedi à 11h et 23h, émission rediffusée, dimanche à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. Le nouveau protocole sanitaire à l'école pour faire face à la propagation du variant Omicron, ce protocole évolue encore, le gouvernement l'a allégé. Les élèves n'auront plus à recommencer le parcours de 3 tests si un nouveau cas positif dans leur classe apparaît dans un délai inférieur à 7 jours. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Noël Mamère, ancien candidat à la présidentielle, ex-maire de Bègles, auteur avec Patrick Farbias du livre Le cas Zemmour, comment en est-on arrivé là, aux éditions Les Petits Matins. Noël Mamère.
Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des médias et de l'opinion ne contextualise pas la montée de Zemmour. C'est-à-dire, on fait comme si c'était une génération spontanée, comme s'il était arrivé là, selon les circonstances. Non, tous les événements historiques s'expliquent, et ils s'expliquent par l'histoire et par ce qui nous a précédé. Et c'est ce que nous avons fait, d'ailleurs, dans notre livre avec Patrick Farbias. Nous avons regardé tout ce qui s'est passé depuis les premières révolutions conservatrices, je pense en particulier à celle de ces intellectuels sous la République de Weimar qui posait les bases d'une certaine manière de ce qui est devenu le nazisme, mais ça a été aussi la révolution conservatrice de Reagan, puis celle de Thatcher, puis celle de Trump. Et donc il faut bien expliquer que Zemmour, il n'est en fait que l'incarnation de ce mouvement qui est né il y a déjà pas mal de temps. Alors il arrive d'une certaine manière avec habileté à synthétiser ces courants de pensée qui ont donné des sociétés invivables et des sociétés qui sont à condamner, bien évidemment, qui ont donné le pire du pire de notre histoire. Et il faut bien considérer que nous n'avons pas affaire à une sorte de clown médiatique qui serait sorti de son écran, de sa télé, pour venir dans la société. Non, il n'est pas tout seul. Il est suivi par une certaine partie de la bourgeoisie et du capitalisme. Je pense en particulier à Bolloré, dont il sert aussi les intérêts. Donc, faut regarder l'histoire. Et quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que les dictateurs qui sont arrivés au pouvoir pour mener des politiques infâmes, ils étaient aussi suivis par une partie de la bourgeoisie et soutenus par elle et financés par elle.
Noël Mamère, invité de Pluriel à 19h23, une émission présentée par Loïc Barrière. Le coup d'envoi dimanche prochain de la Coupe d'Afrique des Nations, cela va durer un mois au Cameroun. L'Algérie, tenante du titre, affiche une série de 33 matchs sans défaite. La compétition débutera à 17h par une rencontre Cameroun-Burkina Faso. Fin de cette édition, j'aurai donc le plaisir de vous retrouver à 20h30 pour une émission rencontre avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.